France Inter.
Bienvenue à tous. À la une de ce 13h, la décarbonation du commerce maritime au cœur à Monaco du Forum de la Finance et de l'Économie Bleue pour préserver les océans. Forum devant lequel Emmanuel Macron s'apprête à prendre la parole. Nous serons en direct de la Principauté. Le guichet de MaPrimeRénov' va revenir au plus tard en septembre prochain. C'est ce que vient de dire sur France Inter le ministre de l'Économie. Cette prime sera suspendue au plus tard le 1er juillet. À la une également, l'auteur présumé de l'assassinat d'un mineur de 17 ans il y a 8 jours à Dax, eh bien il s'est rendu hier soir à la police. En Colombie, l'un des prétendants à la présidentielle, Miguel Uribe, est dans un état grave, victime hier soir d'un attentat à Bogota. Il est blessé par balle. En Ukraine, c'est une première en 3 années de guerre. L'armée russe a attaqué ce matin la région ukrainienne de Dnipropetrovsk. Et puis nous serons à Rome pour le bilan du premier mois de pontificat de Léon XIV. Et puis nous approcherons dans ce journal du central de Roland-Garros et de la finale homme, finale dite de rêve, puisqu'elle va opposer à 15h les numéros 1 et 2 mondiaux, Yannick Sinner et Carlos Alcaraz. Il y aura les bonnes ondes de Sandrine Houdin sur le retour du flipper, ses tendances.
Vous venez à l'appart, c'est pas soirée pyjama, c'est soirée flip.
Voilà, soirée flipper dans un instant. Le temps de ce dimanche, Céline Dacosta, avec un peu plus de soleil.
Oui, de larges éclaircies sur l'ensemble du pays. Il reste à peine quelques gouttes entre la Lorraine et le Jura.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes.
Inter.
Nous partons donc au Forum de la Finance et de l'Économie Bleue de Monaco, forum qui lève des fonds pour la préservation des océans. Nous sommes à la veille du coup d'envoi à Nice de la Convention de l'ONU pour les océans, en présence demain d'une cinquantaine de chefs d'État. Et à Monaco, depuis hier, ce sont surtout les investisseurs, les industriels qui sont réunis, et ils sont concentrés depuis hier sur le commerce maritime, sachant que 90% du commerce mondial se fait par bateau. C'est un secteur qui produit 3% des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, question ce matin sur la décarbonation du transport maritime. L'objectif fixé est le zéro émission de gaz en 2050. Sophie Bécherel, vous êtes en direct de Monaco. Bonjour.
Bonjour.
La marche semble haute, mais ce matin, le secteur s'est montré volontariste.
Oui, pour décarboner ce secteur, plusieurs leviers existent. Électrifier les ports, ralentir les bateaux ou optimiser leurs routes, par exemple. Cela diminue d'un tiers les émissions. Pour les deux autres tiers, une seule option, remplacer les carburants fossiles par des produits vertueux. Et pour donner le top départ à cette transition, le meilleur levier, c'est la réglementation. En avril, l'Organisation Maritime Internationale a réussi à mettre tous les pays d'accord. Le principe du pollueur-payeur va s'appliquer. En France, une partie de l'argent récolté, 90 millions d'euros, ira à 3 acteurs, les chantiers navals, les ports et les armateurs. Les armateurs qui sont satisfaits car transformer les bateaux en construire de nouveau va coûter cher. Laurent Martins, leur directeur général.
Le transport est tellement divers et tellement varié, on va devoir avoir sur nos bateaux l'ensemble des solutions possibles selon le type de votre bateau, selon le type de votre trajet. Donc on aura de l'hydrogène, de l'électrique, du vélique, des e-fuel. Donc on aura besoin d'absolument toutes les technologies parce que le transport est tellement divers et tellement varié. Ça va se faire entreprise par entreprise, bateau par bateau, qu'est de savoir quel est le meilleur mix technologique et économique pour pouvoir aller vers le zéro carbone.
Eh bien Sophie, je vous pose la question, quels sont les carburants à développer pour cette décarbonation ?
Pas les biocarburants à base de végétaux, selon la coalition d'ONG Transport et Environnement. Ils entrent en compétition avec l'agriculture nourricière, selon elle. Pour Fanny Pointé, spécialiste du dossier, il faut privilégier les e-fuel, carburants de synthèse.
Aujourd'hui, on sait fabriquer ces nouveaux carburants à base d'hydrogène. Il suffit d'avoir de l'électricité pour produire de l'hydrogène. Et puis, il faut aussi capter du CO2. Et au final, ça donne un carburant de synthèse. Alors, ça paraît simple à dire comme ça, mais ça coûte extrêmement cher. Donc, en réalité, il faut une vraie volonté politique, une vraie volonté industrielle, que ce soit de la part des producteurs de carburant, mais aussi des compagnies maritimes, pour passer à ces carburants-là.
3 à 4 fois plus cher, vous voyez la marche est haute. Pour le consommateur, cette décarbonation pourrait signifier quelques centimes ou euros de plus sur les produits transportés par la mer.
Sophie Bécherel, en direct de Monaco, au Forum de la Finance et de l'Économie Bleue, avec les moyens techniques de Jérémy Thuil, le président français Emmanuel Macron s'apprête à prendre la parole devant les investisseurs réunis à ce forum. Et ce matin, dans la presse régionale, le président français s'en est pris au recul successif de son propre gouvernement en matière d'environnement. l'environnement, notamment la suspension de la prime Rénov. Eh bien, il y a quelques minutes, sur France Inter, le ministre de l'Économie, Éric Lombard, a précisé que ce guichet rouvrira au plus tard à la fin du mois de septembre.
C'est un excellent dispositif. C'est un dispositif qui s'est emballé. Il y a eu la censure qui a conduit à l'absence de budget. Pendant ce temps-là, le guichet était fermé, parce que le budget n'était pas voté. Et puis ensuite, il y a eu une multiplication des demandes et une multiplication des fraudes qui fait que les services sont très engorgés. Donc, c'est une suspension. Au plus tard, le 1er juillet, c'est-à-dire que d'ici là, les dossiers peuvent continuer à déposer. La suspension va nous permettre de remettre de l'ordre, peut-être changer les processus pour que ça aille plus vite, de façon à ce que le guichet soit rouvert au plus tard à la fin du mois de septembre. Ah. Donc c'est une suspension pendant les mois d'été où, honnêtement, il se passe quand même moins de choses. Encore une fois, je veux aussi rassurer les artisans. Tout ce qui est engagé va se poursuivre. Et puis dès qu'on peut, on rouvre le guichet. Il n'y a pas d'arrière-pensée budgétaire.
Voilà, le guichet de la prime Rénov qui fermera au plus tard le 1er juillet, ce qui veut dire que d'ici là, les dossiers pourront continuer à être déposés. C'était Éric Lombard, le ministre de l'économie, avec Karine Bécard, il y a quelques minutes sur France Inter dans l'émission Questions politiques. Plusieurs marches blanches aujourd'hui, d'abord à Marseille ce matin, et puis cet après-midi à Puget-sur-Argence, à la mémoire d'Hichem Mirawi, ce quadragénaire tunisien tué il y a 8 jours par un de ses voisins. La justice parle d'un crime terroriste et raciste. 2 marches blanches, donc, aujourd'hui. Les organisateurs ont insisté pour qu'elles se passent dans la dignité et le respect. À l'image d'Hichem Mirawi, précisait ses 2 cousines, Siam et Mouna Mirawi, qui étaient présentes ce matin à la marche de Marseille, qui a réuni 450 personnes.
C'est un drame, ce qu'on est en train de vivre. On le souhaite à personne. Et si on a fait cette marche blanche aujourd'hui, c'est que c'est pour que ça arrive à plus personne. Même si on sait que ça ne va pas arrêter, mais on voulait montrer qu'on était là. Et on est là pour Hichem, pour la mémoire d'Hichem, c'est tout.
On demande justice. Alors d'aujourd'hui, mais demain, c'est la justice qu'on demande pour ce crime qu'il a commis. On voudrait que le racisme s'arrête maintenant, au présent, que ça n'existe plus. On veut vivre en paix, tous main dans la main, tous ensemble. On veut que ça et lui rendre hommage.
C'est un être humain. C'est un être humain qu'on a tué. Le soir du crime, il était avec sa mère au téléphone. Ces derniers mois, c'était aïe. C'est un drame qu'on vit et c'est insoutenable.
La cousine Mouna Mirawi, la cousine d'Hichem Mirawi, ce matin à la Marche Blanche de Marseille. La France a enregistré 436 faits d'antisémitisme durant le premier trimestre de cette année. Un chiffre extrêmement élevé, précisé ce matin Mathias Hoth, il est le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Il a noté une explosion des propos haineux. Aujourd'hui, les actes antisémites représentent les 2/3 des actes anti-religieux en France. À Dax, ce jeune homme était recherché par Interpol depuis 8 jours. Eh bien, il s'est rendu hier soir à la police, recherché depuis les célébrations de la victoire du PSG. Ce mineur est soupçonné d'avoir assassiné au couteau un autre mineur de 17 ans. Ce jeune de 16 ans s'est donc rendu dans un commissariat, Marion Dambiel, Henri Baget.
L'individu s'est rendu de lui-même hier dans la soirée au commissariat de Bordeaux. C'est ce que nous confirme ce matin la procureure de la République de Mont-de-Marsan. Il sera présenté dans la journée à un juge d'instruction au palais de justice de Mont-de-Marsan, puisque c'est le pôle de l'instruction Montois qui coordonne l'enquête. Il s'agit bien du mineur de 16 ans qui était activement recherché depuis les faits. Il faisait l'objet d'un mandat de recherche. Interpol avait également émis une notice rouge le concernant afin de faciliter sa traque par les polices des autres pays au cas où il aurait fui à l'étranger. Il est donc soupçonné d'avoir mortellement poignardé à plusieurs reprises un autre adolescent, Benoît, âgé de 17 ans. C'était samedi dernier dans le centre-ville de Dax, en marge des célébrations de la victoire du PSG en Ligue des Champions. La victime est décédée de plusieurs coups de couteau au thorax. Les deux jeunes se connaissaient. C'est une futile histoire de vol de casquette qui serait à l'origine du drame. Le parquet avait d'ailleurs annoncé mardi requalifier les faits en assassinat en raison justement de ce conflit préexistant entre les deux adolescents, envisageant donc qu'il puisse s'agir d'un geste prémédité.
Marion Dambiel, Harry Bagé, ici Gascogne.
France Inter, le journal de 13h. Éric Delvaux.
En Colombie, l'un des prétendants à la présidentielle dans un an, Miguel Uribe, est dans un état grave. Il a été victime d'un attentat à Bogota, blessé à la tête par balle. Il a subi une opération chirurgicale. Ce sénateur conservateur était en train de prononcer un discours lors d'un meeting quand les coups de feu ont retenti. L'auteur présumé serait un mineur qui a été maîtrisé par les gardes du corps. Najed Benrahaba, vous êtes notre correspondante habituelle de France Inter en Colombie. Bonjour.
Bonjour.
En visant la famille Uribay, dans ce contexte politique très tendu, c'est aussi un symbole qui a été visé, une figure importante de la politique colombienne.
Oui, car Miguel Uribe, à 39 ans, appartient au parti de Álvaro Uribe, l'ancien président très affluent qui a dirigé la Colombie entre 2002 et 2010. C'est le parti qui s'appelle Centre démocratique. C'est aussi le petit-fils de Julio César Turbay, un président aussi entre 78 et 82. Et c'est le fils, avant tout, de la journaliste très reconnue qui s'appelle Diana Turbay. Elle avait été enlevée par l'ex-baron de la drogue Pablo Escobar avant d'être tuée lors d'une opération militaire de sauvetage. Sénateur depuis 2022, Miguel Uribe avait annoncé sa candidature à l'élection présidentielle l'an dernier pour succéder à Gustavo Petro, dont il est un vif détracteur. Et c'est dans le climat politique très tendu que les campagnes électorales débutent. Plusieurs réformes du gouvernement ont provoqué une forte polarisation du débat politique. Enfin, l'insécurité est souvent liée aux campagnes électorales présidentielles ici en Colombie. Lors de la dernière en 2022, on avait vu l'actuel président monter sur scène pour des meetings avec des gardes du corps, des gilets pare-balles et des boucliers de protection qui bloquaient les éventuels angles de tir. En général, les attaques visent les candidats favoris à l'élection présidentielle, mais jusqu'à présent, ce n'est pas le cas de Miguel Uribe, d'où la surprise des Colombiens et des Colombiennes.
Najet Ben Rahba. Vendredi, le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, avait annoncé que des entreprises françaises de l'automobile et de la défense allaient produire des drones sur le sol ukrainien, sans donner le nom de ces entreprises. Et bien, selon nos confrères de France Info, il s'agirait de l'entreprise automobile Renault. L'Ukraine, où c'est une première depuis 3 ans de guerre, l'armée russe a attaqué ce matin la région ukrainienne de Dnipropetrovsk. Cette percée russe dans cette région marque un nouveau revers pour les forces ukrainiennes en difficulté, faute d'hommes et d'armement. Correspondance à Moscou de Jean-Didier Revoin.
Selon la défense russe, les unités de la 90e division blindée ont atteint la frontière ouest de la région de Donetsk. Mais loin de s'arrêter à la limite du territoire annexé à la Fédération de Russie en 2022, les forces russes poursuivent leur effort de guerre dans la région ukrainienne frontalière de Dniepropetrovsk. Une bombe guidée y a fait un mort dans la localité de Mejivska, alors que les autorités locales ont fait état d'attaques combinées sur la zone de Nikopol au moyen de drones, d'artillerie et de systèmes de lance-roquettes multiples Grad. Moscou n'a pas communiqué ses objectifs, mais on peut raisonnablement penser que cette conquête territoriale doit permettre de repousser les forces ukrainiennes et réduire ainsi les attaques qui touchent quotidiennement la région de Donetsk. Il pourrait aussi s'agir du début de l'installation d'une zone tampon entre l'Ukraine et les territoires que Moscou considère comme russes. Au moment où Moscou et Kiev ont repris des négociations directes, de nouveaux gains territoriaux sont tout à l'avantage du Kremlin pour se positionner en force face aux Ukrainiens. Moscou, Jean-Didier Revoin, France Inter.
À Rome, c'était il y a tout juste un mois, le 8 mai dernier, à 18h07 précisément, la fumée blanche s'échappait de la cheminée de la chapelle Sixtine annonçant l'élection du 260e pape de l'histoire. Eh bien, en ce dimanche de Pentecôte, le nouveau souverain achève son premier mois de pontificat. Avec quelle priorité, à Rome, Bruno Duvic a interrogé 2 vaticanistes.
L'Église déchirée, c'était le livre de Marco Politi après le pontificat de François. Avec Léon, changement de ton.
Il a commencé à raccommoder la robe déchirée de l'Église.
Son élection rapide, son appel à la collégialité lui valent un très large consensus auprès des cardinaux. Endro Munstermann travaille pour le journal Nederlands Dagblad.
Je pense qu'on est un peu dans la lune de miel encore. C'est pas maintenant qu'il va prendre des décisions. Il garde ainsi aussi l'unité.
Pas de grand discours sur la place des femmes ou des laïcs dans l'Église. Sur la forme, Léon, en portant la cape rouge le soir de l'élection, pas une simple aube blanche, a envoyé un signe.
Un nombre de catholiques dans la frange conservatrice était un petit peu bousculé par le pape François. Et je pense que le pape Léon XIV va être un petit peu plus dans le rituel.
Si le Vatican n'a pas accueilli de négociations sur la guerre en Ukraine, comme évoqué un temps, cela reste une hypothèse.
Le pape Léon va profiter de tout le travail, on peut dire, préparatoire de François. François avait voulu être au-dessus de la mêlée.
Le pape argentin avait longtemps refusé de choisir entre Kiev et Moscou. Après avoir rencontré Zelensky, Léon a eu Poutine au téléphone ces derniers jours.
Et Bruno Duvic, à Rome, en Californie, les autorités dénoncent une décision incendiaire prise par Donald Trump. Le président a envoyé 2000 membres de la garde nationale contre les manifestants qui défilent depuis 2 jours à Los Angeles pour protester contre la politique d'arrestation massive et d'expulsion d'immigrés illégaux. Ce sera à Paris, à partir de 15h, sur la terre battue de Roland-Garros, la finale entre les numéros 1 et 2 mondiaux, l'Italien Yannick Sinner, face à son dauphin, l'Espagnol Carlos Alcaraz, tenant du titre Porte d'Auteuil. Assez étonnamment, c'est la première fois que ces deux joueurs se retrouvent face à face en finale d'un grand chelem. Il faut dire que l'Italien Sinner a été privé de compétition durant 3 mois, suspendu pour cause de dopage. Il n'a repris la compétition que le 7 mai dernier et dans moins de 2 heures. Donc Sinner va défier Carlos Alcaraz, dont il connaît bien les atouts.
C'est un joueur qui a beaucoup de charisme, beaucoup d'aura. Dès qu'il est sur le court, on sent sa présence. Moi, je ne pensais pas arriver en finale à Rome et ici. Je n'ai pas joué durant 3 mois et je ne dois pas l'oublier. Et pourtant, je vais jouer ma 3e finale consécutive en Grand Chelem. Mais dimanche, on ne sait pas ce qui va se passer. Tout peut arriver. L'approche est différente, la partie mentale est différente, la partie physique est différente. Voyons donc comment ça va se passer.
Et s'il gagne ce soir, Yannick Sinner va remporter son premier Roland-Garros. Il serait alors le premier Italien à s'imposer Porte d'Auteuil depuis la victoire en 1976 d'un certain Adriano Panatta. Panatta qui a aujourd'hui 74 ans et qui est impressionné par son jeune compatriote Sinner.
C'est un grand champion, c'est le meilleur joueur du monde. J'ai jamais vu quelqu'un qui joue tellement fort en fond de cours. J'ai jamais vu. C'est incroyable comme il joue. Il a gagné tous les tournois, je crois. Lui, il est capable de faire vraiment l'histoire du tennis mondial dans les prochains 10 ans ou 15 ans. Vraiment.
Adriano Panatta et avant lui Yannick Sinner, tous les deux au micro de Fabrice Abgral. On a dit à juste titre que durant cette quinzaine, le tableau féminin nous avait livré de très belles surprises, des matchs fabuleux à l'image de la finale dames hier. Eh bien, on n'en attend pas moins donc de l'autre finale de rêve cet après-midi à partir de 15h entre Yannick Sinner et Carlos Alcaraz. Le football cet après-midi, ce sera le dernier match de la saison de l'équipe de France, match pour la 3e place en Ligue des Nations. La France a été battue jeudi soir par l'Espagne et dans la petite finale à partir de 15h aujourd'hui à Stuttgart, la France sera opposée à l'Allemagne. À suivre, les bonnes ondes de Sandrine Houdin, second épisode sur le retour du flipper, le pinball on dit aussi. Elle, ce flipper qui a fait les belles heures de la jeunesse des quinquas et autres sexagénaires dans les bistrots des années 80. Le flipper qui a disparu avec l'apparition des consoles vidéo, il revient, il redevient tendance. Les salons de passionnés se multiplient. Par exemple, ce week-end, à Carvin, dans le Nord, rencontre avec Nathalie, collectionneuse de flippers, chez elle, à Valenciennes.
C'est un flipper qui est très speed, en fait. Donc, c'est la bille qui va plus vite.
Quand vous jouez, j'ai l'impression que vous êtes ailleurs.
Ah bah oui, j'ai toujours. Là, je suis dans le jeu. Bah voilà, il m'a fait un tout droit. Par contre, j'ai fait gagner une partie gratuite, là. J'ai claqué.
Mais vous êtes tombé dedans, comment ?
En fait, ma maman travaillait dans un café. Elle me mettait devant le flipper, assis sur un petit tabouret ou une chaise.
Vous aviez quel âge ?
Peut-être 3, j'en sais rien. Ça me plaisait, j'aimais ce qui se passait, les sons, sûrement. Et c'est comme ça que ça a commencé.
Ça ne vous a jamais quitté, quoi ?
Non. Je me suis dit, bon, un jour, j'en aurai un. Lequel, je ne sais pas, mais un jour, j'en aurai un.
Un, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, puis six, puis sept, ça ne s'est plus arrêté. Non mais là, c'est dingue. Il reste un petit coin pour la table et c'est que des flippers.
Oui, parce que j'ai dû enlever un canapé convertible pour pouvoir mettre la totalité de mes flippers, oui.
C'est plus de 2/3 de votre salon, là.
C'est ça. Vous venez à l'appart, c'est pas soirée pyjama, c'est soirée flip.
Vous ne pourriez pas aujourd'hui vous en passer ?
Non.
Au risque de faire tilter son compte en banque, les prix aujourd'hui ne cessent de grimper.
Lui était neuf en carton, il était que, je dis bien que, à 6 000 euros. Attendez, vous allez changer de tête dans 3 secondes. Actuellement, les flippers neufs qui viennent de sortir, ça peut aller jusqu'à 17 000 euros.
Mais attendez, ça veut dire que vous devez rogner sur plein de choses pour vos flippers.
Ah oui, il faut mettre en économie. C'est pour ça que celui-là, j'ai attendu plus de 2 ans avant de l'acheter.
Et c'est pour ça qu'elle fait une croix sur certains modèles.
Comme celui sur Elton John. Donc évidemment, les chansons par Elton John. Prix de base, 9 900 euros. On dit, je vais me contenter d'aller jouer en salon. Voilà.
Vous êtes un ovni dans le monde du flipper.
Oui, c'est une passion bizarre pour une femme. Ah bon, mais pourquoi t'en as autant déjà ? Pourquoi faire ? Parce que je fais ce que je veux déjà.
Vous pensez qu'on ne poserait pas la même question à un mec ?
Non, non.
Comment vous l'expliquez ça ?
Honnêtement, j'en sais rien, je sais pas. Je sais pas, c'est comme les femmes qu'elles doivent être dans la cuisine et que c'est les hommes qui font le reste. Enfin, je sais pas. Comme si, pour eux, une femme n'était pas capable de comprendre les règles, peut-être. Quelquefois qu'on le casserait, alors que nous, on est quand même moins brutaux, je pense. Bah, je sais pas, je comprends pas, mais en tout cas, je me laisse pas faire.
Sa bille secrète.
J'explose les scores. Eh ouais, je suis une meuf, je connais pas le flipper, et je t'ai battu, mon pote. Voilà. Bon, je dis pas à tous les coups, mais souvent, je les éclate. Je vois pas pourquoi on pourrait pas, quoi. Il y a rien qui interdit quoi que ce soit. C'est comme jouer au baby-foot. Pourquoi il y aurait que les mecs qui joueraient au baby-foot et pas les filles? Ça m'énerve.
Ça l'énerve. Le flipper, toujours tendance dans les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Le temps.
La météo avec TGV Inouï. Trouvez votre coin de ciel bleu dans une de nos 200 destinations en France et vers l'Europe.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Eh bien on aura davantage de soleil cet après-midi.
Oui, les nuages se sont morcelés, les éclaircies sont un petit peu plus présentes et ça sur presque tout le pays. Presque parce que c'est encore un petit peu couvert sur les Pyrénées et qu'on a encore un faible risque d'ondées entre la Lorraine, l'Alsace et le Jura. Ça sera principalement sur les reliefs. En revanche, c'est grand beau comme ce matin près de la Méditerranée avec des vents bien présents qui chassent les nuages. Mistral, Tramontane et Libeccio pour la Corse. Un vent assez fort de secteur ouest à sud-ouest qui en été apporte un temps sec et chaud.
Oui, sec et chaud, vous dites, effectivement 28 degrés attendus cet après-midi à Ajaccio.
Oui, 28 également à Perpignan, 29 degrés à Nîmes et même 30 degrés à Montpellier. Pour le reste de la moitié sud, la moyenne ira de 20 degrés à La Rochelle jusqu'à 25 à Bordeaux en passant par 23 à Lyon. Et pour la moitié nord, là on est parfois quelques degrés sous les normales de saison, 16 à 21 degrés seulement. Patience, la chaleur sera de retour dans quelques jours. Mercredi, pour vous donner une idée, la moyenne sera de 30 degrés sur l'ensemble du pays.
Les prévisions de Céline Dacosta.